en parlant des voix de personnes dans l'Église qui sont dont des voix qui sont enregistrées. Bien sûr, il y a la voix d'Alliance, il y a la voix d'Ebi. Il y a, vous savez, vous connaissez le film Jésus en Kabyle. Eh bien, dans ce film, il y a des voix de personnes qui sont dans l'Église aussi. Et puis, plus récemment, c'est nos frères et sœurs tamouls qui ont fait le doublage de films, de deux films, en tamoul. Hein, ça a été enregistré ici, ça a été fait ici, et bientôt ce sera prêt pour la distribution. Ils ont vu, dimanche dernier, on a vu le produit final. Donc, le Seigneur est en train d'être à l'œuvre. Dieu se sert de différentes personnes. Vous savez, les personnes qu'on voit le plus ne sont pas forcément les seules qui font du travail. Hein, et donc, le Seigneur a une place pour chacun d'entre nous et soyons fidèles avec ce que nous avons et le Seigneur nous utilisera. Nous continuons dans notre série d'études sur l'église d'Éphèse. Et donc, dimanche dernier, nous avons vu la pérennité de cette église, hein, qu'elle continue. Aujourd'hui, nous allons voir une lettre qui est adressée à l'église d'Éphèse. 50 ans plus tard, donc dans Apocalypse chapitre 2. Je vous invite à ouvrir vos Bibles, Apocalypse chapitre 2. C'est l'apôtre Jean qui est prisonnier sur l'île de Patmos. Et un dimanche matin, il a une vision. Et justement, dans cette vision, le Seigneur apparaît. Et ensuite, il a un message pour sept différentes églises, la première étant l'église d'Éphèse. Donc, Apocalypse chapitre 2, et je lis à partir du verset 1. Il dit « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite. » Celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. Et voilà la lettre. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Si je prends un bout du verset 2 et un bout du verset 4, j'ai ceci. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. C'est l'essentiel du message. Je sais, il y a beaucoup de bonnes choses, mais tu as perdu ton premier amour. Et donc, je t'écris une lettre spéciale à ce sujet. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Vous pourrez appeler ça, si un jour on vous pose un quiz, on vous dit quelle est la deuxième lettre du Seigneur à Éphèse. Eh ben, vous saurez où la trouver maintenant. Trois points que nous voulons voir ce matin. D'abord, l'importante place que le Seigneur accorde à l'Église et à son envoyé. Deuxièmement, l'esprit de service que le Seigneur recherche dans l'Église. Et puis troisièmement, l'exhortation à la persévérance que le Seigneur donne à chaque Église, oui, chacun dans l'Église. L'importante place, c'est juste dans ce verset 1, l'importante place que le Seigneur accorde à l'Église et à ses envoyés, il dit, voici ce que je dis, ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers. Si je regarde au verset 17 du chapitre précédent, donc à Apocalypse chapitre 1 verset 17, il dit, et je vis, je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. On sait de qui il parle, n'est-ce pas? Jésus-Christ. Écris donc ce que tu as vu et ce qui est et ce qui doit arriver ensuite. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises et les sept chandeliers, ce sont les églises. Donc l'interprétation, elle est là. La Bible s'interprète elle-même. Donc quand il parle l'ange qui est là, eh bien il dit, il s'agit de l'envoyé, hein, le mot « angelos », ça veut dire, c'est le mot qu'on traduit « ange », hein, le mot « ange » vient de là, mais aussi qui veut dire « envoyé », hein, c'est tout simplement un envoyé. Donc ici ça a été traduit « ange », mais n'imaginez pas quelqu'un avec des ailes et tout ça, c'est tout simplement le pasteur, hein, de l'église, celui qui a été envoyé vers cette église pour diriger cette église. Alors il dit « écrit à l'ange qui est dans cette église », et puis aussi il dit « celui que je tiens dans ma main, c'est précieux ». C'est pas juste quelque chose, un bibelot sur une étagère quelque part dans l'esprit de Dieu. Il dit c'est ce que je tiens dans ma main. Dans Jean chapitre 10, verset 28 à 30, il dit vous êtes dans ma main et personne ne vous ravira de ma main. Hein? Vous savez, pour quand vous prenez une pièce. Et on fait ça avec les petits-enfants, parce que bon, on fait pas ça avec les grands, parce qu'on va perdre. Mais on fait ça avec les petits-enfants, on met une pièce dedans, on lui dit, allez, ouvre la main, et tu peux avoir la pièce. Ben ici, on est confronté à toute la force de la personne. Dieu dit, moi, je vous garde dans ma main. Celui qui veut vous arracher de la main de Dieu est confronté à toute la force et la puissance de Dieu. Et c'est pas évident. C'est un endroit sûr. Hein, quand il dit dans la main, il dit c'est un endroit sûr. Et puis en plus, l'honneur qu'il accorde, c'est qu'il dit dans ma main droite. Il n'a pas dit dans une des mains. Il a dit main droite. Et vous connaissez dans la pensée juive, la culture juive, la main droite, c'est toujours celle qui est de l'honneur. Hein. C'est le nom Benjamin qui veut dire le fils de la main droite. C'est toujours assis à la droite. C'est toujours la place d'honneur. Et dit, et c'est là où tu es, dans ma main et dans ma main droite. Et puis ce qu'on trouve, c'est qu'il dit, celui qui se tient au milieu des chandeliers. Les chandeliers, ce sont les églises. Ça a toujours été l'esprit de Dieu de vouloir être parmi les hommes. On lui dit, mais il n'a pas trouvé mieux. Certainement qu'il a pu trouver mieux, mais ce sont ceux qu'il aime. Hein, il veut être avec ceux qu'il aime. Dans Lévitique, et puis au chapitre 26, verset 12, il nous parle de Jésus, de Dieu, qui est l'Éternel, qui était au milieu du camp et qui circulait dans le camp des enfants d'Israël. Il veut être avec les siens. Il dit, voici, je suis avec vous. Il n'a pas dit, et vous devez être avec moi. Il a dit, et voici, je suis avec vous. Il cherche. Il dit, Emmanuel, hein, ce nom qu'on va entendre là, c'est Dieu avec nous. Et c'est la pensée, et ça reste. Et depuis le début de la Bible, on trouve c'est Dieu qui vient dans le jardin chercher Adam et Ève. Et tout le long de la parole de Dieu, et jusque dans la fin, et jusque dans l'Apocalypse, Dieu cherche à être avec nous. Est-ce que nous cherchons autant que lui, à être avec lui, que lui cherche à être avec nous? Lui veut être avec nous, et nous avons besoin de lui. Alors que lui, dans un sens, n'a pas besoin de nous. Il existe sans nous. Il a existé pendant longtemps sans qu'il y ait des hommes. Avant la création de l'homme, Dieu existait, était tout suffisant en lui-même. Mais il veut. être parmi nous. Il nous aime. Et nous pouvons compter sur cela. Quand on a affaire avec quelqu'un qui veut être avec nous, vous savez, vous ne pouvez pas être pénible. Vous ne pouvez pas le rechercher trop souvent. Et donc, Dieu aime être avec nous. Mais ensuite, dans ce passage, l'Esprit de Dieu s'adresse à l'Église et puis il parle de ce service. S'il a des recommandations à faire, s'il a des qualités à souligner dans cette Église, ce sont des qualités à rechercher. Il dit, par exemple, il commence à me dire, j'approuve le fait que tu ne supportes pas les méchants. Il dit, tu vois les méchants, tu vois, les méchants, ce sont ceux qui ne se comportent pas avec amour, hein, qui n'expriment pas, qui ne représentent pas l'amour. Il dit, je vois que tu ne supportes pas. C'est pas seulement que tu ne tolères pas, tu ne supportes pas. C'est des sentiments forts contre eux, ceux qui sont méchants et qui seraient au sein de l'Église. Il dit, deuxièmement, et tu reconnais, tu discernes les faux apôtres. C'est intéressant que le mot apôtre aussi veut dire envoyé. Apostolos veut dire celui qui a envoyé. Il parle des anges ou des angelos de l'Église qui sont des envoyés. Et puis après, il a dit il y a les faux apôtres. Vous savez, ce qui est important, c'est pas l'envoyé, mais qui l'a envoyé. Hein, je me rappelle à la maison, on pouvait être l'un des frères. On était trois frères. Hein, l'un pouvait dire, écoute, tu dois faire quelque chose. Et on dit, tu es qui toi? Ah, c'est papa qui a dit. Ah, ça change tout. C'est la même personne qui parle. Mais si il parle de lui-même, tu es qui toi? Mais s'il dit, papa a dit, ah là, ça change tout. Si vous savez, c'est pas l'envoyé qui est important, c'est qui l'a envoyé. Et c'est très important. C'est pas, vous savez, la tendance qu'on a souvent, et c'est ça le danger. C'est qu'il y a quelqu'un de passage qui vient, qui a des choses à dire. Et alors, on commence à l'écouter. On écoute pour voir si ça nous plaît. C'est pas la remarque. C'est dit, tu viens de la part de qui? Qui t'a envoyé? Il y a beaucoup de gens qui parlent et qui ont toutes sortes d'enseignements. Mais qui les a envoyés? Et si il dit mais moi c'est moi le moi je j'ai des choses à dire, il dit écoute alors va les dire dans un champ. C'est pas on n'a pas vous savez on ne juge pas en fonction de ce qui si ça me plaît ou pas, on juge en fonction de qui est-ce qui t'a envoyé. Et que ce soit ça dans chaque fois que vous entendez, vous allumez la radio, vous entendez une prédication, vous lisez un livre, tout ça, mais dire mais lui est-ce que c'est Dieu qui lui a donné ces paroles? Est-ce que l'enseignement vient de la parole de Dieu? Ou est-ce que ça vient de sa tête et de sa propre cuisine? Hein, et il faut pas perdre du temps à essayer d'écouter parce que il y en a qui sont tellement bons parleurs, ils peuvent nous embobiner, n'importe lequel d'entre nous. Et il dit aussi, je remarque votre persévérance. La persévérance, c'est une qualité. Hein, celui qui persévérer, ça veut dire continuer quand on n'a plus envie de continuer. C'est persévérer. Et il dit, j'apprécie votre persévérance. Vous continuez même quand il n'y a plus rien pour vous encourager, vous continuez quand même. Il dit, c'est une qualité. Il dit même, vous avez même souffert pour moi, en mon nom. Vous avez supporté la souffrance, la persécution, la difficulté, l'opposition. Vous l'avez supporté pour moi. Et en plus, il ajoute, et sans vous lasser. Ça, c'est quelque chose. Vous avez continué à faire sans vous lasser, sans dire... J'ai plus envie, je suis fatigué, j'en ai assez. Gardez Apocalypse 2, mais regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le dernier verset. 1 Corinthiens 15 et le dernier verset, il dit, ainsi mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlable, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Si je suis en train de servir le Seigneur et je suis convaincu que mon travail ne sera pas vain dans le Seigneur, il n'y a pas de raison pour se lasser. Parce que je sais que c'est de l'effort bien investi. C'est pour lui. Il nous dit aussi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 13, 2 Thessaloniciens 3 et verset 13, il dit pour vous frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Ne vous lassez pas de faire le bien. Si c'est bien, peu importe s'il y a du monde qui approuve ou qui approuve pas. Vous savez ce que c'est qu'un rosier. Un rosier, normalement, tout le monde trouve les roses belles. Hein, un beau rosier. Vous savez, le rosier, il a une fonction, c'est de produire des roses. Et puis ces roses dégagent un parfum. Vous mettez le rosier dans un champ où il n'y a personne qui passe. Vous mettez dans le parc de Luxembourg. Vous le mettez à côté d'une décharge, il fait la même chose. Pourquoi ? Il fait ce pourquoi il a été créé. C'est pas, oh, bon, il y a personne qui remarque, il y a personne qui voit, il y a personne qui me dit merci, il y a personne. Et alors ? Tu as été, toi, ta fonction, c'est quoi ? Fais-la, c'est tout. Parce que tu l'as fait pour le Seigneur. Et tu, la rose s'ouvre, et elle dégage ce parfum. Il y a quelqu'un pour le sentir, pour dire, ça sent bon. Il n'y a personne pour le sentir. Il n'y a qu'une vache qui passe et qui sent rien du tout. Et c'est pareil. Et vous savez, il dit, ne vous lassez pas parce que c'est pour le Seigneur que vous le faites. Et puis au verset 6, donc Apocalypse chapitre 2, verset 6, il dit, et tu as ceci, il dit, encore, je pourrais ajouter encore quelque chose, il a dit, tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Alors c'est déjà une bonne chose. C'est haïr les choses que Dieu hait. Hein, c'est déjà... Bon, déjà, il faut savoir ce que Dieu est ou n'aime pas. Et comme ça, et puis après, vous vous alignez sur Dieu. Hein. Nous sommes dans un monde où on est tellement égocentrique que moi, ça me plaît. Ça te plaît pas toi, l'autre, ça lui plaît pas. C'est pas grave, moi, ça me plaît, alors je le fais. Et non. C'est quand on croit en Dieu, quand on connaît Dieu, on dit, Dieu, qu'est-ce que tu aimes ? Eh bien, ce que tu aimes, moi, j'aime. Et en grandissant, mon père, il n'aimait pas les carottes. Eh bien, il ne faut pas être étonné que les enfants, ils ont grandi, ils n'aimaient pas les carottes. C'est tout. Pourquoi ? Papa, il n'aime pas les carottes ? Ben, j'aime pas les carottes. Tu sais pourquoi ? Non, mais papa n'aime pas les carottes. Vous savez, on est... Non, maintenant, c'est une question de Dieu. Qu'est-ce qu'il aime ? Qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Et je m'aligne dessus. Si je suis un fils, si je suis un enfant, eh ben, ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît à mon Père Céleste, me plaît. Peu importe. C'est pas moi le centre du monde. C'est Dieu le centre du monde. Les Nicolaïtes, on en sait très peu. Ils sont mentionnés dans le chapitre 2, verset 13, on a une autre mention des Nicolaïtes. Nicolaïtes, c'est certainement des disciples de Nicolas. Certains pères de l'Église primitive du premier siècle font référence aux Nicolaïtes comme étant ceux qui ont suivi Nicolas d'Antioche. Nicolas d'Antioche, si vous allez dans Actes chapitre 6, c'est l'un des diacres. Il s'appelait Nicolas. Pour ceux qui, je ne sais pas s'il y a des Nicolas ici, mais le nom Nicolas. Nikao, c'est victoire, hein, Nike, vous connaissez Nike, les baskets Nike, hein, c'est victoire. Nikao, c'est être victorieux. Et puis après, Laos, c'est le peuple. Hein, donc c'est le peuple vainqueur. Hein, c'est un joli nom. Hein. Mais le truc ici, c'est Nicolas d'Antioche. Et autant il était zélé dans l'Église primitive, et il se peut que par la suite... eh bien, il a dévié un peu dans le sens de, et ce qu'on peut lire, c'est que, au nom de la liberté chrétienne, il dit quand on est en Christ, on n'est plus sous la loi, on n'est plus sous les commandements, et au nom de la liberté chrétienne, eh bien, il a même justifié l'impureté morale dans la vie du chrétien. Alors, Dieu dit, ah non, ça non. Il dit, je hais l'enseignement des Nicolaïtes. Et je dis ça en passant, un avertissement, c'est que c'est pas parce que il y avait une époque où c'était très bien dans notre vie, on allait bien, que c'est garanti. C'est un entretien de chaque jour. Hein, notre vie spirituelle, c'est pas parce qu'il y a eu des bons jours à un certain moment que c'est garanti. Non, c'est entretenu. Hein, notre vie chrétienne doit être entretenue. Sinon, il y a des personnes, même des gens très bien, qui se détournent de la vérité. Et nous devons être celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Hein. Donc des qualités, on dit moi si moi je pouvais avoir toutes ces qualités là, ce serait pas mal. Je serais content de moi. Et oui, mais pourtant le Seigneur il trouve un petit problème. Il dit oui, toutes ces choses sont belles et sont bien. Mais il a dit mais attention. Et même dans la lettre de Paul à Timothée, Paul avertit Timothée. Timothée, il était le pasteur de l'église d'Éphèse. Après que Paul est parti, Timothée est resté et il a été le pasteur de l'église d'Éphèse. Et Paul lui écrivait pour lui donner des conseils par rapport à des dangers dans l'église d'Éphèse. Regardez avec moi dans 1 Timothée. Hein, on va regarder dans cette première lettre de Paul à Timothée, qui finalement, il est en train de traiter les problèmes de l'église d'Éphèse. On va vite voir quelques passages, je vais les lire seulement. Hein, vous. Donc déjà 1 Timothée chapitre 1, les versets 6 à 7. En fait, je vais lire 5 à 7. 1 Timothée chapitre 1, verset 5, il dit « Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. » Retenez ces trois mots, hein, l'amour, la bonne conscience et la foi. « Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, » donc ça veut dire qu'ils les avaient pendant un temps, « ils se sont détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours, et ils veulent être docteurs de la loi, et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. » Il dit, c'est des gens qui étaient, il y a bien commencé, ils avaient un bon enseignement, mais quelque part, ils commencent à s'écarter de ça. Continuez, le verset 19 et 20 du même chapitre. Verset 19 et 20, je commence au verset 18, c'est le début de la phrase. Il dit, les recommandations que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan. Il dit, méfie-toi, il y a des gens qui sont bien partis, ils ont bien commencé, mais qui ont fait naufrage pour ce qui concerne la foi, ils sont écartés. Il dit, ça arrive, ça existe. Donc sois averti, sois conscient de cela. Et bien sûr, tous nous prenons note parce que si c'est arrivé à ceux-là, ça peut nous arriver à nous. Je continue au chapitre 4, versets 1 à 3. Chapitre 4, donc 1 Timothée 4, versets 1 à 3. Il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et ceux qui ont connu la vérité. Il dit, il va arriver des gens qui vont s'écarter et puis qui vont commencer, chacun commence à faire sa sauce et des enseignements, ça c'est pas bien, il faut pas faire ça, il faut faire comme ceci. Il dit, mais méfie-toi, ça va venir. Je continue au chapitre 5, verset 20 et 24. Donc chapitre 5, le verset 20 et le verset 24. Verset 20, il dit, « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous, afin que les autres soient éprouvés et que les autres éprouvent de la crainte. verset 24, « Les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge, tandis que les autres ne se découvrent que dans le temps, dans la suite. » C'est-à-dire, il dit, oui, c'est pas toujours évident tout de suite, ça se voit pas, ça a l'air bien. Ah oui, c'est une personne qui est très bien, qui est gentil, qui, bon, il a une connaissance, il a ceci, cela, il parle bien et tout. Il dit, oui, mais bon, observe pendant un temps. Avant de tout avaler, observe pendant un temps pour voir où ça mène. Quand ça vient de la chair, éventuellement, les traits, les qualités de la chair apparaissent. Il commence à vouloir dominer, il commence à vouloir chercher son intérêt, il veut être le centre de l'activité, centre de tout, et ça commence à aller. Même s'il dit des belles choses, mais attention, regardez nos vies. Et puis regardez, hein, vous voyez des prédicateurs sur la télévision, vous voyez des trucs, attention, regardez leur vie avant d'écouter les paroles. Le Seigneur, il a dit, avant de manger du fruit, avant de trop suivre, regardez leurs fruits. Hein. Les faux prophètes, vous les reconnaissez à leurs fruits. Hein. C'est pas regarder l'arbre et dire, oh, c'est un bel arbre, ça ne peut être que bien. Hein. Non, non. Mangez le fruit, dites, qu'est-ce que ça donne? Ça goûte quoi? Il dit, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai trouvé dans le monde. Alors bon, eh bien, vous savez d'où ça vient. Je continue dans 1 Timothée, là, chapitre 6. Et regardez les versets 3 à 5. Il dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, croyant que la piété est une source de gain. Il dit, voilà ce que ça donne. Il dit, méfiez-vous. Aussi, dans ce chapitre 6, regardez les versets 9 à 10. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Il dit, attention, les gens, ils parlent bien, mais vous voyez qu'il a un amour pour l'argent, il est sensible pour l'argent. Hein, si vous avez de l'argent, vous avez une bonne place avec lui. Si vous n'avez pas d'argent, il ne vous remarque pas. Il dit, peu importe s'il parle bien, si c'est comme ça, je m'écarte. Faisons attention. Hein, faisons très attention. Ça existait déjà au premier siècle et ça existe encore aujourd'hui. Parce que la nature humaine, elle n'a pas évolué. Il y a encore un dernier passage dans ce chapitre 6 de 1 Timothée, et donc les versets 20 et 21, il dit « Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns, qui se font ainsi détourner de la foi, qui se sont ainsi détournés de la foi. » Il dit « Timothée, écoute, ça existe. Et attention, on lit dans Apocalypse chapitre 2, il dit, écoute, je vois qu'en tant qu'Église, tu as du discernement, quand il y a des faux docteurs qui arrivent, tu le discernes, tu les écartes, quand il y a les Nicolaïtes qui arrivent avec leur doctrine, la liberté chrétienne et ça justifie tout, hein, bah, on aime Jésus donc tout est permis. Il dit cela aussi, vous avez écarté. Il dit, bah, je peux dire que des bonnes choses sur vous. Mais alors où est le problème? Mais où est le problème? Hein, vous pouvez imaginer ça, vous dites, mais c'est une église pas mal. Mais et oui, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais vous savez, les exigences du Seigneur ne changent pas. Je vous demande de garder ce Apocalypse chapitre 2 avec un doigt et puis trouver 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 3 avec l'autre doigt. On va faire des parallèles, on va comparer deux versets. Donc 1 Thessaloniciens chapitre 1 et au verset 3. Donc je lis le verset 3, 1 Thessaloniciens 1, 3. Il dit, nous rappelons sans cesse, vous voyez les mots-clés là, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comparez ça à ce qu'on a lu dans Apocalypse chapitre 2. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Ah oui, mais quand je lis dans Thessaloniciens et je vois ce qui a été dit en l'an 52, alors que la lettre d'Apocalypse chapitre 2 est écrite en l'an 95. Donc il y a 40 ans de différence entre les deux. Mais regardez dans Thessaloniciens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'œuvre, il ne dit pas l'œuvre, il dit l'œuvre de votre foi. Il dit le travail de votre amour. Il ne dit pas seulement le travail, il dit le travail de votre amour. Et puis il dit la fermeté de votre espérance. Vous savez, oui, dans l'autre il dit la persévérance. La persévérance, oui, mais parfois la persévérance, ça peut être juste, c'est l'entêtement. C'est comme ça qu'on a toujours fait, c'est comme ça qu'on va faire, c'est comme ça que c'était bien avant, et c'est bien comme ça, on continue. Il dit, oui, mais il y a quelque chose de perdu là. Tandis que quand c'est une question de la fermeté de votre espérance, vous savez pourquoi. Vous avez toujours cette vision de ce que le Seigneur réserve. Et donc vous continuez, ça c'est autre chose, c'est un autre esprit. La différence, hein, c'est Jésus dit, il dit à l'église d'Éphèse, il dit, oui, je connais ton travail, je connais tes œuvres, je connais ta persévérance. Oui, mais c'est pas ça. Il dit ce que je voulais, et c'est ce qu'on avait au début. Il dit, l'œuvre de votre foi. C'est-à-dire, vous avez travaillé, vous avez fait, mais pourquoi? Parce que vous aviez foi. Parce qu'il y avait une foi forte dans votre... Hein, vous avez confiance. Il dit, le travail de votre amour. Oui, vous avez fait du travail. Mais c'est autre chose quand on le fait avec amour. Et il dit, persévérance, oui, parce que, bon, c'est comme ça, hein, on nous a programmé comme ça, et puis on continue. Ou bien, c'est la fermeté de votre espérance. Vous avez cette confiance, vous savez ce qu'il y a devant vous, et donc, vous continuez. C'est un autre esprit. Pratiquement, dans la marche, ça ressemble, hein. Il fallait prendre une photo de celui qui œuvre avec amour et celui qui œuvre seulement. On peut regarder les deux, on me dit, mais c'est exactement pareil, c'est la même photo. Et oui, mais le résultat, c'est pas pareil. Hein, c'est pas le même esprit. Et c'est, en fait, c'est ça que Jésus est en train de dire. Et souvent, en tant que chrétien, on dit, mais moi, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Il dit, oui, mais bon, tu fais tout, mais il manque à quelque chose. C'est comme on peut s'occuper d'un enfant et on peut être comme une mère pour un enfant. C'est pas pareil. Je travaille dans une crèche, je fais mon travail, tout est bien, tout est propre, tout est correct. Ou bien il y a la maman qui, elle, il y a quelque chose. Et elle le fait avec amour. Et l'enfant, il sent toute la différence. Mais dans une église, c'est pareil. Dans l'œuvre de Dieu, c'est exactement pareil aussi. Il dit, donc dans l'église d'Éphèse, quand il nous parle en Apocalypse, donc à la fin du siècle, à la fin du premier siècle, en l'an 95, il dit, oui, je vois, l'œuvre est là, le travail est là. Mais il y a des ingrédients qui manquent. La foi, l'amour. L'espérance. Et c'est... Oui, les patates, elles sont bouillies, hein, c'est sûr. Elles sont bien cuites, c'est sûr. Mais il n'y a pas l'épice là qui fait la différence. Hein. Parfois, qu'est-ce qui fait la différence entre la cuisine du restaurant d'à côté et la cuisine de maman? Et maman, elle le fait avec amour. L'autre, il le fait pour vendre. C'est pas la même chose. Et dans la vie d'église, c'est exactement pareil. Et ce que nous faisons, ce que je fais, quelle que soit l'œuvre que je fais, est-ce que je le fais parce que, M. Barnes, il m'a dit de le faire? Ou est-ce que je le fais, mais je le fais pour le Seigneur, c'est une opportunité pour servir le Seigneur et j'aime le faire. Et j'aime celui pour qui je le fais. Et quand ces ingrédients supplémentaires sont là, eh bien alors, servir, conduire, mais ça cohabite très bien. Tandis que quand c'est la chair, à servir, c'est pas la même chose. Conduire, c'est autre chose. Mais quand c'est, il y a l'amour, la foi, l'espérance qui agissent, conduire, servir, c'est pratiquement pareil. Et même, je lisais une citation de Wiersbe qui disait, on parle du serviteur de Dieu. Je lisais le récit de, il parlait de Néhémie, comment Néhémie avait conduit le peuple pour la reconstruction de la muraille. Et puis il avait souligné, il a dit par exemple, le serviteur dans l'église, donc le pasteur, il est appelé à être un conducteur qui sert et un serviteur qui conduit. Quand les ingrédients sont là, ça marche. Conducteur qui sert et un serviteur qui conduit. Finalement, c'est pareil. Quand les ingrédients sont là, quand il y a la foi, l'amour, la persévérance, il y a ces ingrédients que Jésus cherche. Pourquoi est-ce que à l'époque de Christ, les gens trouvaient Jésus tellement différent des pharisiens et des publicains? Souvent, ils disaient les mêmes choses, mais c'était pas pareil. Pourquoi? Parce que dans le cœur, c'était pas pareil. Et donc, même nous, lorsque nous avons affaire avec nos enfants, on peut parler des pasteurs, et puis bon, je peux y aller parce que j'y suis, mais même en tant que parent, comment j'élève mes enfants, comment je leur enseigne, comment je leur dis, il y a une différence entre je le fais, écoute, fais, je t'ai dit, fais-le. Et puis quand il y a l'amour là, et quand il sent que je cherche son bien, c'est pas pareil, il le prend pas de la même manière, même si c'est le même ordre. Et dans notre vie d'église, et là, Jésus est en train de parler à l'église d'Éphèse, il dit, écoute, il y a un petit quelque chose. Si on prenait la photo, ce serait pareil. 40 ans, ça fait pas de différence. Mais si quand on vient, on la vit, c'est pas pareil. Et vous savez, quand quelqu'un rentre ici dans l'église, il va sentir tout de suite. Il dit, oui, des églises, j'en ai vu. Mais est-ce qu'il sent? Mais ici, c'est pas pareil. Ben, ils ont la même Bible, ils ont les mêmes cantiques, ils ont même, c'est sûr, mais il y a quelque chose. Il y a un esprit qui est différent. Et c'est ce que le Seigneur cherche. Et ce qu'il faut entretenir. Vous savez, quand il y a Jean, c'est Jean qui est en train de parler, c'est à Jean que Dieu donne cette épître. Jean, c'est l'apôtre Jean. Vous vous souvenez quand Jésus était sur la croix? Et puis, juste là sur la croix, alors qu'il est en train de, dans la douleur, et normalement, quand on est en train de souffrir, on pense à qui? On pense qu'à soi-même. Mais lui, il a vu sa mère, et il a vu Jean. Et il a dit à Jean, il dit, voici ta mère, et il dit à sa mère, voici ton fils, il dit, tu t'occupes d'elle, tu prends soin d'elle. Et Jean s'est occupé, la tradition, l'histoire de l'Église nous dit, il l'a prise, et finalement, ils ont habité à Éphèse. Mais encore aujourd'hui, vous pouvez aller là-bas, et il y a une maison qu'ils appellent la maison de Marie, et puis il y a une église dessus, et puis vous l'avez fait, il y a des pèlerinages et tout ça, ça a été commercialisé, mais le truc c'est que Jean, l'apôtre Jean, que nous connaissons comme l'apôtre de l'amour, celui qui nous a beaucoup parlé de l'amour, par son évangile, par ses épîtres, et c'est justement dans cette église que Jésus dit, mais il n'y a pas l'amour. Vous savez, il vient de dire que ne nous contentons pas de nous-mêmes, de ce que nous sommes et ce que nous pouvons être aujourd'hui. C'est pas garanti pour demain. C'est un entretien. Et pour qu'une église puisse avoir l'amour qu'il faut, il faut que chacun qui la compose ait l'amour qu'il faut. Si vous faites une tarte aux pommes, mais il y a qu'une pomme qui est pourrie. Toutes les autres sont bonnes. Qu'est-ce que vous faites avec la tarte? Il n'y a personne qui sait. Ça vous est jamais arrivé. Heureusement pour vous. Mais vous savez, et dans une église, il y a toute une église, mais qu'il y a eu un membre, la tarte, elle n'est pas bonne. C'est tous. Il ne faut pas dire, oh oui, mais lui. Non, non. Travaillons tous pour que Jésus puisse dire, oui, il y a encore l'amour. Continuez, je vous encourage. Et Jésus prend cette situation au sérieux. Hein. Je reviens sur Apocalypse chapitre 2 maintenant et verset 5. Et Jésus parle et dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Vous vous rendez compte comment il dit ça ? Souviens-toi d'où tu es tombé. Pour lui, de ne pas avoir cet amour, comme à l'origine, qui soit l'ingrédient qui est présent dans toutes les actions et toutes les activités et tout l'enseignement, il a dit quand c'est absent, c'est pchut, vous êtes tombé. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Je vous rappelle l'histoire d'Abraham. Abraham, il s'appelait encore Abraham dans Genèse chapitre 13. Et il venait faire un autel, et puis il avait prié, il était en communion avec Dieu, puis après il a continué son chemin dans le sud, et puis il y a une famine. Il y a une famine, et Abraham, sans consulter Dieu, sans demander ce qu'il devait faire, il fait ce qu'il trouve intelligent, et il descend en Égypte. Il dit là-bas, il n'y a pas de famine, on va descendre là-bas, on va attendre que ça passe. Et puis vous connaissez l'histoire, maintenant il dit, ah oui, mais quand on descend en Égypte, ça va, mais bon, ma femme elle est jolie, comment je vais faire ? Bon, écoute, chérie, tu sais, je t'aime beaucoup, mais tu vas dire que tu es ma sœur, hein, parce que je veux vivre. Ben, toi, tu n'as pas de risque, mais moi, je risque. Donc, tu vas dire que tu es ma sœur. Et puis, il descend là-bas. Dieu, dans sa grâce, le protège et empêche que elle soit souillée. Et Pharaon le renvoie. Hein. Je vous raconte l'histoire, vous pouvez lire dans Genèse chapitre 13. Et Pharaon le renvoie. Bon, il l'envoie avec plein de cadeaux, des richesses qui vont lui servir plus tard. Mais ce qu'on trouve dans ce chapitre 13, c'est que Abraham retourne jusqu'au dernier endroit où il y avait et la tente plantée et l'autel. Et vous savez, c'est là dans notre vie. Si jamais on s'écarte de Dieu, si jamais on est plus qu'on était avant, hein. Elle dit, oh oui, je me souviens dans ma vie chrétienne, je me souviens à l'époque là-bas où j'étais, ça brûlait en moi et j'étais. Il dit, ben retourne là où ça s'est arrêté. Et pour Abraham, c'était de retourner là où il avait planté sa tente et il avait établi l'autel, où il y avait et la tente et l'autel ensemble. Et vous savez, l'endroit sûr, l'endroit où c'est normal dans votre vie, c'est quand votre tente et votre autel, votre vie de tous les jours et votre relation avec Dieu cohabitent. Et c'est là qu'il faut retourner. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et il ajoute, il dit maintenant, repens-toi. Il dit, te souviens d'abord, évalue, prends conscience dans ta tête, mesure la situation, et après, repens-toi, pas excuse-toi. Pas trouve des excuses. Oui, mais bon, c'était. Abraham, il aurait pu dire oui, mais il y avait une famine. S'il n'y avait pas une famine, ça ne me serait pas arrivé. Ah oui, mais bon, nous tous, on peut dire des choses comme ça. Hein, si lui ne m'avait pas irrité, moi, je n'aurais pas dit ce que j'ai dit. Donc, c'est sa faute. Ah, ben, c'est lui qui te contrôle. Hein, c'est lui. Lui, il fait quelque chose et toi, tu suis. Donc, c'est lui ton maître. Et ce n'est plus le Seigneur ton maître. Donc, tu es dans l'erreur. Ah oui, mais tu dis ça comme ça, ah oui, bien sûr, mais bon, lui, s'il n'était pas... Non, non, écoute, qui est-ce qui t'inspire tes paroles ? Qui cherches-tu à plaire ? Qui contrôle ta vie ? Quelle influence affecte ta vie ? Hein, on devrait être comme des tournesols. Le tournesol, il grandit, et je ne sais pas ce qu'il y a dans sa tête, mais il se tourne vers l'Est, le lever du soleil. Nous, on devrait être des chrétiens tournesol. Hein? Quand on commence la journée, la tête, elle est tournée vers le Seigneur. Première chose. Et on absorbe tout ce qu'on peut. C'est ça. Il dit, sinon, tu vas tomber. Et alors, après, il faut reprendre. Il dit, repens-toi. Mais en plus, il le dit deux fois. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc ça veut dire que repentir, c'est clé. Et repentir, vous savez que le mot grec repentir, ça veut dire demi-tour. tu es parti dans une mauvaise direction, tu fais demi-tour, tu reviens. C'est ça qu'Abraham a fait, il a dû faire un demi-tour et revenir au point précédent. Et dit, et c'est faire demi-tour, reviens et tu vas trouver le Seigneur qui t'attend là où tu l'as quitté. C'est extraordinaire. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Éphésiens chapitre 1 et au verset 15. Il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Il a dit, vous l'aviez. J'ai entendu parler de votre foi et de votre amour. Et là, ici, Jésus dit, t'es tombé. Je n'entends plus parler de votre foi et de votre amour. Oui, de vos activités, le fonctionnement. Maintenant, vous êtes parti. Au lieu de faire les choses selon l'esprit de Dieu, vous êtes en train de faire les choses selon la tradition. Et la tradition, ça a permis de continuer sur la bonne voie, même s'il y a plus, même si c'est vide dans le cœur. Vous avez des églises, il n'y a plus la foi, il n'y a plus rien du tout, mais l'activité, ça continue et ils font toujours des belles choses. Et c'est possible. La tradition, c'est merveilleux, c'est un échafaudage qui permet de maintenir, même si ça ne tient pas. Il dit, repens-toi. Et puis après, il dit, pratique tes premières œuvres. Pratique tes premières œuvres. Vous connaissez bien ce passage dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, quand il parle de toutes ces œuvres qu'on fait, mais sans l'amour. Et il n'a pas des compliments. Je relis, on les connaît bien, mais c'est bien de les relire. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 1 à 3. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Je suis un morceau d'airain, un morceau de cuivre qui fait du bruit. Verset 2. Quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je suis rien. Il dit au verset 3, « Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres et quand je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. » Il dit, « Oui, l'Église peut fonctionner, vous pouvez faire des programmes structurés et tout, que ça marche. » Mais dit, « Le jour où vous perdez l'amour, ça commence dans le compteur de Dieu, c'est du plat, sur le graphe de Dieu. » Il dit que même si chez les hommes, ils disent « Ah oui, c'est bien là-bas, oui, ça tourne bien, ça fonctionne bien, c'est une belle machine. » Et oui, justement, c'est ça, c'est une belle machine. Tandis que l'Église, c'est un organisme vivant. Et un organisme vivant, il a une âme qui aime. Il dit, et si tu ne te repens pas, il dit, j'enlèverai ton chandelier. Il dit, parce que le chandelier, il dit, cette flamme qui m'identifie, qui montre que vous êtes à moi, il dit, je l'enlèverai. Bon, vous continuerez, mais la flamme, je l'enlève. Le témoignage, il est parti. Le signe que je suis là sur vous, que je vous bénis, ne sera plus. Il dit donc, repentez-vous, retrouvez. Et alors, la question, c'est que chacun d'entre nous, je dis, mais ce que je fais de chrétien, est-ce que je le fais parce que j'aime? Est-ce que je le fais parce que j'ai confiance en Dieu? Est-ce que je le fais parce que j'ai cette espérance en Dieu? Ou est-ce que je le fais parce que c'est comme ça, je suis dans une église et puis c'est comme ça qu'on fait les choses? Et c'est ça qu'il faut réfléchir. Et je peux ressembler à un autre. La question, il n'y a que le Seigneur qui sait ce qu'il y a dans mon cœur. Et c'est là la question qu'il faut poser. Est-ce que le Seigneur me dirait, s'il me pouvait me parler, moi tout seul, une lettre, il me dit, Steve, tes œuvres, je les connais. J'ai une église qui produit, regarde, des films et tout, et c'est du beau travail. Il dit, oui, mais j'ai perdu l'amour. Oui, des projets, il y en a. Mais est-ce qu'il y a l'amour derrière? Et c'est ça que le Seigneur peut faire. C'est ça qu'il a dit à l'église d'Éphèse. C'était une bonne église. Et si c'est arrivé à l'église d'Éphèse, ça peut nous arriver si on n'entretient pas régulièrement notre relation, chacun d'entre nous. Et il termine la lettre. Et on voit, ça se voit que c'est le Seigneur. Quand il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, vous savez combien de fois il l'a dit dans les évangiles, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il dit, ça sert à quoi les oreilles? Eh ben, pour entendre. Alors, écoute. Le Seigneur, il a tellement de disciples. Bon, parfois les parents, ils ont l'impression que les enfants aussi, ils savent pas pourquoi ils ont des oreilles. Hein? C'est pas fait pour être tiré normalement. Et c'est pas fait pour Dieu. Il n'a pas mis un nez et des oreilles, c'est pour que les lunettes tiennent. Hein? Et les oreilles, c'est fait pour entendre. Et surtout, vous savez, les oreilles. Quelqu'un, qui est-ce qui disait? Je crois que c'est Albert qui disait. Les oreilles, on n'arrive pas, on peut pas les fermer. Il y a pas les yeux, on peut fermer, la bouche, on peut fermer, mais les oreilles, on peut pas fermer. Mais si, et vous savez, on peut fermer quand on veut pas entendre. Hein? Il n'y a pas, comme on dit, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et vous savez, la question c'est, oui, j'ai des oreilles, mais est-ce que je suis sourd à ce que Dieu dit? Ou est-ce que je suis sensible? Vous savez, il y a des mamans là, elles sont assises au fond là-bas, elles ne sont pas loin de la crèche. Moi, j'entends rien du tout. J'entends un pain, et puis il y a une maman qui se lève et qui part. Pourquoi? Et il y a des certains bruits, elle entend. Elle entend au milieu du souk, du marché, pour vous qui ne comprenez pas. Elle peut entendre. Est-ce que j'entends la voix du Seigneur? Parfois, est-ce que je me mets dans une situation de silence pour que je puisse entendre le murmure doux et léger? Dieu n'est pas un Dieu qui crie. Il dit, si tu veux m'entendre, tu vas m'entendre. C'est pas la peine que j'élève la voix. Et Dieu va pas élever la voix. Mais il va être entendu par ceux qui le cherchent. Il dit, celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et il dit ça toujours quand il y a des choses importantes à dire. Il dit que celui, il a pas dit que l'Église, il a dit que celui, donc il a dit que l'individu qui a des oreilles pour entendre ce que je dis à l'Église. C'est-à-dire, il a dit la lettre était adressée à l'Église, mais il dit que chaque individu entende ce que je dis à l'Église, parce que c'est pour lui. Hein? Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre et en tire instruction. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Juste rapidement, en terminant cet arbre de vie, eh bien, l'autre mention de l'arbre de vie est dans la Genèse. Dans Genèse chapitre 3, il nous dit qu'il y avait deux arbres dans le paradis. Hein, il y avait deux arbres. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis il y avait l'arbre de vie. Ève a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a donné du fruit à son mari. Tous les deux sont tombés dans le péché. Tout de suite, Dieu, dans sa grâce, il a chassé Adam et Ève du jardin. Pas parce qu'il était fâché avec eux, pour qu'ils ne mangent pas de l'arbre de vie. Parce que si on mange de l'arbre de la vie, on existe éternellement dans l'état dans lequel on se trouve quand on mange de cet arbre. Et s'ils avaient mangé, alors qu'ils étaient pécheurs, ils avaient mangé de cet arbre, ils seraient éternellement pécheurs. Impossible de les sauver. Dieu, dans sa grâce, les a chassés pour qu'ils ne mangent pas. Il a enlevé l'arbre de la terre, il l'a mis au ciel, et puis il a dit maintenant, je vais envoyer Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, pour vos péchés. Il va obtenir le pardon de vos péchés. Vous allez recevoir une nouvelle nature, une nouvelle vie, la vie éternelle. Et maintenant je vais vous emmener là-haut où vous pourrez manger de l'arbre de vie. Ça, c'est une belle histoire, hein. Je vous ai raconté rapidement, mais finalement, c'est une histoire de restauration, c'est une histoire de grâce de Dieu. Prenez la première page, la dernière page de la Bible, vous en avez assez pour être parler des bienfaits de Dieu, eh ben, ça suffit. Ça fait toute la différence. Et il dit, pour celui qui a des oreilles pour entendre, eh bien, je donnerai à manger de l'arbre qui est dans le paradis, l'arbre de vie, la restauration totale, le salut complet. Vous êtes chassé pour que vous ne le preniez pas, afin de pouvoir l'offrir dans de meilleures conditions, quand vous serez en état pour le prendre. Ça, c'est le Dieu de la Bible. C'est pas le Dieu d'une religion. Si les hommes avaient inventé ça, ce serait un Dieu qui ressemblerait trop à l'homme. Mais notre Dieu ne ressemble pas du tout à l'homme. C'est à l'homme d'être transformé pour prendre la nature de Dieu. Donc, le message de cette épître, cette lettre à l'église d'Éphèse, c'est oui, tu peux faire des bonnes choses, mais pourquoi tu les fais? Motivé par quoi? Qu'est-ce qui te pousse à les faire? Est-ce l'amour, la foi, l'espérance? Ou est-ce que tu les fais parce que ben, c'est comme ça, dans cette église, on fait comme ça? Oui, le travail, les œuvres, la persévérance, oui, mais non, avec amour, par la foi, parce qu'on a confiance en Dieu. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus, alors là, commencez par la croix, hein, venez dans votre esprit, vous imaginez Jésus sur cette croix, et puis dit, mais c'est normalement c'est moi qui devais être là, et c'est toi qui as pris ma place. D'abord, je te remercie. Deuxièmement, puisque tu as pris ma place, pour que Dieu puisse me pardonner, ben je demande le pardon de Dieu. Pardonne-moi de tous mes péchés. Et maintenant, donne-moi de vivre pour toi, comme tu as vécu, motivé par l'amour. Ce n'est pas les clous qui ont maintenu Jésus sur la croix. La pierre devant la tombe n'a pas pu le maintenir alors qu'il était mort. Alors, ce n'est pas des clous. Quand il est vivant, qu'ils pourront les retenir. C'est son amour pour nous qu'il a retenu. Et nous, ce qui va nous maintenir dans notre marche chrétienne, c'est ce même amour qui est dans notre cœur. Prions. Père Céleste, encore une fois, merci pour ces paroles. On n'est pas là pour montrer l'église d'Éphèse du doigt, mais on est là pour nous regarder nous-mêmes dans le miroir. Seigneur, merci de nous rappeler ces choses et donne-nous de chercher à vivre une vie chrétienne vraie. Pas des pratiques qui ressemblent, mais vraiment vivre la vie chrétienne, cette vie nouvelle que tu nous as donnée, avec l'esprit que tu nous as donné. Et Seigneur, je prie pour ceux qui pourraient être parmi nous, qui ne connaissent pas, qui ne te connaissent pas, qui puissent te découvrir. Et trouver celui qui nous a tellement aimés, qui nous a préservés de l'arbre de vie dans le jardin d'Éden pour nous l'offrir dans le paradis. À toi soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Continuons.